Bienvenue au Désordre Mondial, je suis Rachel Marsden. Au cours des dernières années, il est difficile d'échapper aux nouvelles concernant des conflits mondiaux qui n'invoquent pas la guerre électronique. On peut même remonter à l'acquisition par certains pays de systèmes de missiles sol-air et de leurs composants radars afin de constater le moment où la dynamique s'est inversée dans certains conflits, notamment pour la Syrie et la Turquie. Et lorsque les installations pétrolières saoudiennes ont récemment été attaquées, la grande question est rapidement devenue « Pourquoi les systèmes de missiles Patriot fabriqués par les Américains n'ont-ils pas détecté et contrecarré l'attaque ?» Vladimir Poutine a répondu à l'incident en plaisantant lors d'un sommet devant le ministre iranien des Affaires étrangères que si le système de défense antimissile russe avait été acheté par les Saoudiens, ils auraient été mieux protégés. Que nous dit cet incident sur l'orientation de la guerre? Quels sont les aspects de la guerre électronique? Sommes-nous maintenant dans une période où il n'est pas si important de disposer du meilleur moyen d'attaque que du meilleur moyen de défense aérienne, à une époque où les drones sont de plus en plus utilisés comme arme aérienne préférée? Comment la guerre électronique fait-elle son grand retour?
Le désordre mondial, présenté par Rachel Marsden.
Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Olivier Dujardin est chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R, expert en guerre électronique et le traitement des signaux radars. Bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Bonjour. Alors, premièrement, pour l'audience qui peut-être n'est pas au courant de tous les éléments, qu'est-ce que c'est exactement que la guerre électronique ?
La guerre électronique, c'est un espace d'affrontement dans le spectre électromagnétique, c'est-à-dire toutes les ondes radioélectriques qui sont utilisées pour communiquer, la HF, la radio, la télé, le signal GPS, les radars, etc.
Ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous dites là, c'est que vous avez parlé des choses qui sont disponibles pour tout le monde, la télévision, des radios par exemple. Alors, est-ce que la guerre électronique, c'est vraiment le domaine exclusivement militaire ?
Absolument pas. Ça peut très bien s'appliquer aux civils. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde utilise de plus en plus d'applications connectées, que ce soit sur son smartphone, le Wi-Fi, WiMAX, les objets connectés, les paiements sans contact. Tout ça, ça passe par les ondes électromagnétiques.
Mais est-ce que c'est justement la guerre électronique ? C'est pas le cas, non ? Alors, comment est-ce que tout cela pourrait faire partie de la guerre électronique ou d'une guerre électronique ou le combat électronique ?
Eh bien, de manière générale, on pourrait interférer. On pourrait imaginer une organisation criminelle qui s'attaque sur, par exemple, prenons un exemple de restaurant qui fonctionne quand on a les petits beepers, quand le plat est prêt, on va le chercher. On pourrait très bien attaquer un centre commercial pour lui bloquer son application et bloquer tout son chiffre d'affaires. Ça pourrait être une sorte de ransomware.
On peut faire une guerre contre un resto qu'on
n'apprécie
pas.
Oui, mais ça peut être juste un but purement criminel. Ça pourrait être bloquer un dépôt d'Amazon ou sur une compagnie aérienne au niveau des pièces aéronautiques en bloquant les signaux RFID, par exemple.
Alors, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des mercenaires qui pratiquent la guerre électronique.
Ce serait possible. Alors, le seul élément qui aujourd'hui limite un peu ça, c'est que ce sont des compétences techniques qu'on trouve moins facilement que pour des gens qui vont faire des cyberattaques où on trouve des tutoriels sur Internet. Dans le domaine, on n'a pas encore de tutoriels sur Internet, donc c'est peut-être ce qui limite un peu que ça prenne de l'ampleur.
Et justement, qu'est-ce que cela comprend ? Quels sont les éléments de la guerre électronique ?
La guerre électronique comprend une partie réception, c'est-à-dire renseignement, c'est-à-dire en gros savoir ce que l'adversaire utilise, l'adversaire ou concurrent, enfin peu importe, qu'est-ce qu'il utilise, comment il l'utilise, et après réfléchir comment je peux le perturber. Alors en brouillage, ou en s'introduisant dans ses réseaux, Voilà, c'est un ensemble de renseignements et d'effecteurs. C'est un peu comme une armée classique où on a des unités de renseignement, puis on a des unités de combat.
Alors est-ce que ça veut dire que n'importe qui pourrait obtenir ce qu'il faut pour monter une guerre contre un État, par exemple, sur le plan électronique ?
C'est de plus en plus facile aujourd'hui avec la généralisation des émetteurs-récepteurs état solide, la même technologie qu'il y a dans les smartphones. Donc ce sont aujourd'hui des équipements qu'on peut acquérir pour quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Et après, avec une exploitation logicielle, donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, quand c'était des émetteurs, des oscillateurs, c'était compliqué, c'était lourd, c'était très cher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, ce n'est pas encore totalement démocratisé, notamment pour la partie émission, parce que ça demande encore certains éléments techniques qui ne sont pas faciles à intégrer et on ne trouve pas les compétences partout. Mais nul doute que ça va se simplifier au fur et à mesure.
Mais est-ce qu'il y a des soucis par rapport aux terroristes, par exemple, qui pourraient obtenir la capacité de monter des opérations qui pourraient être... Peut-être problématique par rapport à ça.
En réalité, c'est déjà le cas. Les terroristes, aujourd'hui, peuvent déjà faire du brouillage de signal GPS.
Et l'impact pourrait être quoi, concrètement?
L'impact... un terroriste qui utilise le signal GPS, ça peut perturber, faire perdre un avion en vol transatlantique. Après, on pourrait le combiner à d'autres choses, c'est-à-dire notamment, je pense aux signaux ILS pour l'atterrissage des avions, imposé sans visibilité, où on supprime le signal... le signal ILS, on supprime le signal GPS, l'avion, il n'a plus d'informations sur sa piste.
Alors,
si on est en mauvaise visibilité, si le pilote ne peut pas se poser de visu, ça pourrait éventuellement engendrer un accident.
Mais est-ce qu'on a des informations qui suggèrent que ces gens-là, ces mauvais acteurs, travaillent là-dessus? Que c'est un objectif de leur part? Ou est-ce que c'est juste la spéculation que ça pourrait se faire?
Pour l'instant, c'est au stade spéculatif. En dehors du brouillage GPS, ça qui est avéré, puisqu'ils sont équipés d'équipements qui ne sont pas très difficiles à trouver dessus. Mais après, c'est qu'une question d'imagination. Les idées, ils vont finir par les avoir. Les compétences, ils commencent à les avoir. On le voit sur d'autres domaines, ils montent en compétences. Donc c'est quelque chose qui pourrait effectivement devenir problématique d'ici quelques années.
Et surtout parce que tout le monde est obsédé par cette idée que les armes à feu ne sont pas disponibles, ou bien par exemple aux États-Unis ils sont disponibles, alors il y a des gens qui sont obsédés par l'idée qu'il faut les supprimer. Mais en même temps, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des choses qui sont très facilement disponibles aux États-Unis, en France, ailleurs, et qui pourraient être utilisées dans l'ensemble avec d'autres éléments et d'autres produits afin de pouvoir constituer peut-être une arme à destruction massive. C'est possible? Quand vous parlez d'une attaque contre un avion, par exemple, commercial...
On ne pourrait pas appeler ça une attaque de destruction massive, mais...
Mais quand on parle de l'avion, c'est...
Ben oui, mais bon, ça ne serait jamais plus qu'une bombe qu'on place dans un avion. Ça n'aura pas plus d'effet, on va dire. Au niveau de l'opinion publique, l'effet serait le même. Et puis en plus, il y aurait un autre problème, c'est que sur une attaque électronique, il n'est pas facile d'attribuer l'auteur. Il n'y a pas d'auteur. On a joué sur les ondes. Qui a brouillé? Pourquoi? Est-ce que c'est un brouillage naturel? Il y a toute une enquête qui serait très compliquée à mettre en place. On ne pourrait pas affirmer que c'est un acte hostile. C'est toute la difficulté du système.
Ah, c'est aussi la difficulté avec le cyber. On a du mal à attribuer les attaques dans le domaine cyber aussi.
C'est un peu le même genre. Mais après, il peut y avoir des effets involontaires. Par exemple, il y a eu le cas à Marseille pendant certains temps. Les avions perdaient le signal GPS 500 mètres avant la piste, je crois. Et ils se sont aperçus qu'en fait, c'était lié à des gens qui volaient de l'essence dans les stations-service et qui utilisaient un brouilleur pour brouiller les stations-service, pour débiter de l'essence gratuitement. Et ça perturbait le signal GPS.
Des avions?
Oui.
Alors
que c'était pas, a priori, il n'y avait pas de lien entre les deux, mais bon, des fois, c'est un effet secondaire.
Oui, problématique, pour en dire le moindre. Mais alors, quelles sont les contre-mesures qui pourraient être prises par les États?
C'est pas facile, parce qu'à partir du moment où on repose sur les ondes électromagnétiques, elles sont toujours brouillables. Ça, c'est une règle absolue. On ne peut pas empêcher un brouillage. On peut limiter les vulnérabilités, on peut essayer de faire plein de choses, mais empêcher le brouillage, techniquement, c'est, à partir du moment où on brouille une fréquence, on la brouille. Voilà. À moins d'émettre toujours plus fort, mais bon, après, il y a des limites physiques aussi. Après, la seule chose, c'est toujours la redondance, de déjà faire reposer tout un système sur les ondes électromagnétiques. Il faut toujours reposer sur autre chose, d'avoir toujours un plan B. C'est la seule solution, c'est la redondance.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un retour de cette idée de la guerre électronique. Quelle est l'histoire de la guerre électronique pour l'audience?
La guerre électronique, elle a commencé à partir du moment où on a commencé à utiliser les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire dès les premières applications de la radio. Donc, on est au début du XXe siècle. Et les premiers éléments d'action de guerre électronique pure, c'est en 1905, pendant la guerre russo-japonaise, où les Japonais ont commencé à écouter les communications des navires russes. Et les Russes, eux, ont commencé pour la première fois à brouiller les communications des navires japonais. Donc voilà, la guerre électronique, elle était née, mais quasiment en même temps. Ce qui est assez logique, d'ailleurs.
Et après, lors des autres conflits?
Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu, c'était les buts, on était encore au début de la radio, donc la radio était écoutée. Ma connaissance peut brouiller, mais c'est surtout pendant la Seconde Guerre mondiale où là, ça commençait à apparaître, parce qu'il y a eu l'apparition des premiers radars, donc il y a eu les premiers leurres, on a commencé... Là, c'est là que la guerre électronique a commencé à se mettre en place durant la Seconde Guerre mondiale, et c'était crescendo, notamment pendant la guerre froide, avec la guerre entre les deux blocs, où les systèmes d'armes devenant de plus en plus compliqués, les communications prenant une part de plus en plus importante dans la conduite des armées, où là, forcément, fatalement, la guerre électronique a pris une importance majeure.
Alors, comment ça se fait que la technologie n'a pas trop changé à la base depuis 100 ans ?
La technologie, après, c'est la technologie sur les émetteurs ou les récepteurs qui va changer, mais sur les fondements, les fondamentaux, ça reste les mêmes.
Et les vulnérabilités, les failles sont pareilles ?
Les failles sont
depuis
aussi à
100
peu
ans.
Oui, sont à peu les mêmes. Mais après, ce sont les lois de la physique. Alors parfois, on peut essayer de les contourner, mais on peut jamais les violer.
Alors pourquoi est-ce que on a l'impression que c'est le grand retour de ce phénomène aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est pertinent dans les conflits qu'on voit aujourd'hui?
Tout simplement parce que la guerre électronique, c'était un domaine qui était pas oublié parce qu'elle a toujours existé, mais qui était un peu délaissée parce qu'après la chute du mur, on s'est vraiment orienté sur des conflits asymétriques contre des gens en mobylette et avec une Kalachnikov. Donc la guerre, ils n'avaient pas de gros système d'armes, ils n'avaient pas de moyens de communication élaborés. Donc la guerre électronique, c'est un peu oublié, elle s'est laissée vivre sur un truc. Mais aujourd'hui, avec le retour des États-puissances, on va dire, les tensions entre États montrent qu'il y a des systèmes d'armes qui sont plus évolués, qui sont vendus à des pays qui avant n'étaient pas équipés de ces systèmes-là et qui commencent. Donc là, d'un seul coup, ça commence à reprendre de l'importance.
Est-ce que vous croyez qu'il y a une course aux armements par rapport au système antisol qui inclut le radar, qui fait partie des outils dans ces guerres électroniques, notamment entre les États-Unis et la Russie ?
Il n'y a pas vraiment de course aux armements. C'est que pour l'instant, les pays occidentaux ont pris conscience qu'ils avaient quand même un certain retard par rapport à la Russie dans le domaine, parce que c'est un domaine qu'elle a toujours préservé.
La Russie a préservé.
Oui, a toujours préservé.
Et les États-Unis
Non, parce qu'ils se sont vraiment orientés. Ils se sont dit la Russie économiquement elle était à genoux. Ils se sont dit ils sont finis, ils ne reviendront plus. Ils ont laissé de côté. Et donc, ils ne sont pas du tout intéressés à cette composante qu'ils ont laissée telle qu'elle. Donc, ils ne l'ont pas tellement améliorée. Et donc, aujourd'hui, quand on voit les actions russes, ce qu'a fait la guerre électronique russe au Donbass ou en Syrie, ils se disent que là, il est temps de revenir. Donc là, ils commencent à remettre des moyens pour redévelopper des compétences, redévelopper des matériels.
Mais pourquoi est-ce que les systèmes sont différents ? À la base, si les principes sont pareils, vous parlez des principes de la guerre électronique qui ne changent pas depuis 100 ans, pourquoi est-ce que les systèmes antimissiles sont différents ?
Les systèmes d'armes ? Tout simplement parce qu'on arrive à les améliorer avec des nouvelles technologies, on arrive à faire plus compact. Donc des choses, par exemple, avant incorporer un radar dans un tête de missile, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, on peut lui faire faire beaucoup plus de choses, donc on peut alléger. Donc c'est plutôt la technologie qui s'infiltre partout.
Est-ce qu'il y a une grande différence entre le système américain et le système russe, par exemple? Les armes.
Oui, notamment si on compare le S-300, le S-300, S-400, parce que c'est un peu... C'est un dérivé de la famille. Et le Patriot américain, oui, il y a une différence de logique et de philosophie. Les Américains ont privilégié ainsi un seul système, c'est-à-dire un radar qui fait tout, qui fait la veille, la poursuite et qui guide ses missiles et ses lanceurs. La Russie a fait un choix différent, c'est-à-dire il n'y a pas un radar, mais il y en a trois. Il y a un radar de conduite de tir, de poursuite, il y a un radar de veille longue portée, un radar de veille haute altitude ou très basse altitude qui complète la veille. C'est bien qu'ils n'ont pas d'angle mort dans la veille. Par contre, en contrepartie, c'est que le système est plus lourd, parce qu'il y a plus de systèmes. Et il y a aussi l'autre différence.
Mais ça reste au sol, alors pourquoi est-ce que c'est problématique ?
Il reste au sol, mais parce que les doctrines, les tactiques qu'on peut mettre en œuvre sont différentes. Du coup, les Russes utilisent aussi 5 types de missiles sur l'S-400. 5 de missiles entiers, 5 types de missiles différents. Les Américains, il n'y en a qu'un seul.
Donc, quoi l'avantage ?
L'avantage, c'est qu'ils ont développé un missile en fonction de chaque type de cible. Donc, il est optimisé dans chaque domaine. Inconvénient, au niveau logistique, c'est beaucoup plus lourd à gérer. Mais aussi pour l'attaquant, c'est aussi plus compliqué parce qu'il va, difficilement savoir quelle est la composition de missile d'une batterie. Il ne sait pas à sa distance. Il dit quel type de missile j'ai en face de moi. Parce que le contre, la manière de pénétrer la défense antiaérienne ou de la leurrer ou de la brouiller, va être complètement différente. Donc c'est ça qui va rendre compliqué l'attaquant parce qu'il ne sait pas, finalement, il a un système d'armes qui est bien identifié, mais ce système d'armes-là peut avoir tellement de déclinaisons de fonctionnement différentes qu'il ne sait pas trop. À quoi il devra faire face ?
Alors, pourquoi est-ce que le système Patriot acheté par l'Arabie Saoudite n'a pas réussi à arrêter l'attaque sur leurs intérêts pétroliers récemment ?
Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que le système Patriot n'a pas été fondamentalement développé pour ça. C'est-à-dire, il est, à l'origine, c'est plutôt un système qui est fait pour intercepter des avions ou des missiles balistiques à grande distance et haute altitude. Là, on lui demande de détecter quelque chose de petit qui vole bas, à basse altitude. Donc déjà, c'est pas trop...
Alors, on parle d'un drone, alors ?
Oui, de drone ou de missiles de croisière, ça vole à basse altitude, c'est de petite taille. Et donc, forcément, c'est détecté. Si c'est détecté, c'est détecté de beaucoup moins loin. Deuxièmement, les Saoudiens ont fait le choix de protéger majoritairement, de surveiller majoritairement le sud et l'est de leur position. Or, il semblerait que les missiles et drones soient arrivés par le nord. C'est-à-dire, en gros, ils ne veillaient pas ce secteur-là.
Alors, quand Vladimir Poutine dit lors d'un sommet, quand il dit en rigolant un peu que les Saoudiens, s'ils auraient acheté le système russe, ils auraient été mieux protégés, est-ce que... Il y a une vérité derrière ça ?
Une petite vérité et puis un petit mensonge. La vérité, c'est que c'est vrai, vu que le système russe possède plusieurs radars, dont un radar, dont des radars de veille qui tournent en permanence. Donc oui, ils auraient vu, sans doute, venir les missiles bien plus tôt. Là où le petit mensonge, c'est que le système S-400, comme le système Patriot, n'est pas non plus conçu pour traiter ce genre de cibles. Il peut le faire, parce qu'ils ont adapté des missiles, mais ce n'est pas sa fonction première. C'est pour ça qu'à côté, ils mettent toujours des pansir ou des TOR, des systèmes TOR, qui sont là pour protéger, et que c'est plus leur fonction à eux d'intercepter ce type de cible que le système en lui-même.
Alors, que sont les angles morts pour les deux systèmes ? Si quelqu'un voulait vraiment, un acteur, voulait vraiment attaquer aux intérêts à l'intérieur d'un pays, quel est l'outil qu'il faudrait utiliser ? Parce que, d'après vous, on a les deux systèmes qui ont le même angle mort, c'est pas la vérité.
Tout à fait, c'est-à-dire dans la doctrine russe déjà c'est prévu un S-400, une batterie ou S-300, une batterie longue portée n'est jamais toute seule. Déjà elle est toujours accompagnée de systèmes de courte portée, d'office. Ah. Donc déjà c'est une faiblesse qu'ils ont prise en compte.
Alors, c'est...
Et d'ailleurs,
si on achète un système russe, il faut acheter... Un autre système russe pour l'accompagner.
Faut pas forcément l'acheter, mais il faut avoir des moyens de le protéger. Sinon, lui-même, il sera limité. Mais les Russes, dans leur doctrine, quand ils sont déplacés en Syrie, ils ont mis un S-400 sur la base de Mine. Il y a des pansir tout autour qui protègent. Et c'est eux qui se chargent de l'interception des drones attaquants. C'est pas le S-400. Ce serait démesuré. Et il y a une logique économique. C'est-à-dire, on va pas utiliser un missile qui va coûter 100 fois ou 1000 fois le prix de la cible.
Alors, comment est-ce que cette idée d'utilisation des drones qu'on voit depuis peut-être une décennie maintenant, comment est-ce que ça a impacté sur la guerre électronique ?
Pour l'instant, ça n'a pas vraiment impacté, parce qu'en Occident, on en est vraiment encore à redécouvrir. Enfin, à part les Américains qui ont commencé vraiment à mettre en place une politique, mais il y a le Japon, la Chine, etc., qui commencent à réinvestir, mais les pays européens, pour l'instant, restent assez passifs. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une influence. La menace drone peut être traitée comme une autre menace, c'est-à-dire on est face aux mêmes choses, c'est-à-dire il faut déterminer quelle est la vulnérabilité de sa cible, et puis de travailler là-dessus.
Alors, on peut traiter alors des drones comme des missiles ?
Oui. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un drone et un missile. Ça reste une plateforme propulsée, guidée.
Alors, est-ce qu'il y a des conflits qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui qui ont été vraiment impactés par la guerre électronique ?
Le principal, c'était le conflit dans le Donbass, puisque l'échec de l'armée ukrainienne a été en partie dû à ça. Pas que, mais voilà, ça leur a posé comme des très gros problèmes. Un petit peu en Syrie, où bon, les Russes ont un peu embêté les Occidentaux. Et là, on a commencé à comprendre qu'il y avait quand même des vulnérabilités. Et,
Alors, quels étaient les enjeux de la guerre électronique en Syrie, par exemple, qui ont changé la donne?
Je pense qu'il y avait un message politique. La guerre électronique, à mon avis, était utilisée en disant « je vous coupe un peu votre système de temps en temps, je vous montre que bon, je garde le contrôle
». Et la Turquie, on sait qu'il y avait une lutte d'influence entre, et il s'agissait de l'achat des, soit d'un des deux systèmes, soit le système russe, soit le système patriote. Alors, qu'est-ce qui a été l'impact par rapport aux actions de la Turquie qu'on voit aujourd'hui, surtout en Syrie?
Ça, c'est difficile à dire. C'est après, je pense que le choix était plus d'ordre politique que technique, comme souvent dans les achats d'armement. Je ne sais pas quels sont les éléments dont pouvaient disposer les Turcs. De toute façon, voilà, après, c'est de réputation de système.
Mais est-ce que ça devrait être une question politique, l'achat de ces armes, ou est-ce qu'il devrait...
Déjà, historiquement, les achats d'armement, ça a toujours été une question politique.
Mais il n'y a pas forcément de désavantage en favorisant, en privilégiant un système contre un autre, en sachant qu'il y a des différents angles morts, par exemple?
Disons, après, ça dépend de la doctrine qu'on veut appliquer.
Alors, ça veut dire que la batterie ou le système en soi n'est jamais utilisé tout seul. Il peut l'être.
Alors, il peut l'être. C'est un peu le système à tiroir. C'est-à-dire, le S-400, il peut l'utiliser de manière extrêmement basique et dégradée, c'est-à-dire juste sa conduite de tir et ses missiles, ça fonctionne aussi. Mais il y a beaucoup plus de vulnérabilité et on se rapproche un peu du système Patriote. Après, il peut être utilisé avec sa suite radar classique, c'est-à-dire son radar de veille spécialisé pour la basse altitude ou la très haute altitude contre les missiles balistiques et sa conduite de tir. Et après, il y a l'utilisation russe, c'est-à-dire... cette gamme de radars en plus tous les autres interconnectés, notamment les radars bande basse pour la détection des avions furtifs et toute la détection dans la profondeur, qui s'interconnectent. Et donc, ça donne une dimension au système qui est complètement différente.
Alors, qu'est-ce qui est utilisé en Israël? On entend souvent qu'il y a ce fameux système qui intercepte des missiles en Israël. Et alors, est-ce qu'ils ont une stratégie un peu différente?
Disons qu'en Israël, c'est un système d'autoprotection. La forme de David, c'est vraiment le but d'intercepter les roquettes, etc. Il semble bien fonctionner. Le seul problème qu'ont les Israéliens, c'est le coût. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, leur missile intercepteur, il coûte à peu près entre 80 et 100 fois, je crois, le prix de la roquette assaillante ou du missile assaillant. Donc, ils ont essayé de limiter le coût en faisant un calcul, en disant celle-là, elle est plus menaçante que là, l'autre, elle va tomber dans une zone inhabitée, je ne vais pas l'intercepter. Mais comment ils pourraient tenir face à une attaque vraiment de saturation? Je ne sais pas, comment ils peuvent tenir dans le temps? C'est la question.
Exactement, et c'était ma prochaine question. Si jamais il y avait une attaque du genre qu'on voit dans d'autres conflits, qui ne provient pas tout simplement des missiles qui ressemblent plus au feu d'artifice, on dirait, par rapport à d'autres missiles. Est-ce que ça servirait, ce qu'ils ont aujourd'hui?
Ça servirait, mais la question, c'est combien de temps? Combien ils ont de réserves? C'est toujours pareil, d'avoir des armes extrêmement sophistiquées, c'est bien, mais elles coûtent cher. Donc elles sont difficiles à produire, donc on en a relativement peu. Demain, vous avez un conflit de haute intensité. Alors c'est bien, pendant une semaine, on va avoir la guerre ultra high-tech. Et après, une fois qu'on aura bouffé les stocks, il va rester quoi?
Ouais, j'ai jamais pensé à ça, en fait. C'est compliqué.
Parce que c'est le problème. Voilà, on a des missiles de croisière, mais on n'en a pas des milliers en stock. Une fois qu'on a tiré, on va être sur un conflit de haute intensité, on va tirer nos quelques missiles, tout le monde va tirer ces trucs de haute technologie après. L'industrie, elle ne peut pas suivre. Il faut plusieurs mois pour reproduire ces missiles.
Ouais, on ne réfléchit jamais à ça. On pense qu'on est dans un jeu de vidéo.
Le jeu vidéo va durer, il va durer une semaine, deux semaines. Ça dépendra de l'intensité. Mais après, c'est baïonnette au canon.
Mais d'après vous, qui ou quel pays a la suprématie dans la guerre électronique aujourd'hui?
Incontestablement, c'est la Russie.
Ah bon?
Oui, alors, en guerre électronique, c'est la Russie qui maîtrise largement le domaine, parce que historiquement, elle a toujours considéré ça comme important, elle a toujours mis d'importants moyens, elle a toujours maintenu ses unités de guerre électronique, elle les a même modernisées et elle continue. Donc, ils ont du matériel qui est à jour, ils ont des gens formés et aussi ils ont toujours une doctrine vraiment d'actualité, dans le sens où tous les entraînements. Les exercices russes prennent en compte une part de guerre électronique, à la fois offensive et défensive. C'est-à-dire, ils s'entraînent à s'auto-brouiller, ils s'entraînent à agir alors que les communications sont coupées. Donc, ils gardent cette capacité à agir. Donc, ils sont plus entraînés que les pays occidentaux où, quand la guerre électronique est prise en compte, souvent, elle est trop souvent simulée, par manque de moyens, d'ailleurs.
Quand on voit des exercices militaires exécutés par les Américains et leurs alliés, ça ne comprend pas un élément de guerre électronique ?
Rarement. Parce que, simplement, comme les unités n'ont pas de... on a très peu d'unités de guerre électronique. Il va falloir qu'en France, les unités de guerre électronique, il n'y en a pas beaucoup. En guerre électronique offensive, on n'en a quasiment pas.
En fait, ça, c'est un bon point. Qui est responsable de la guerre électronique ? Est-ce que c'est l'armée de l'air ? Est-ce que
c'est toutes les armées, parce que chacun l'a appliqué. L'armée de terre a besoin... Aujourd'hui, c'est l'armée de terre qui a le plus d'unités de guerre électronique. L'armée de l'air fait de la guerre électronique, mais dans le sens de renseignement et autoprotection. La marine aussi.
Alors, c'est une fonction de renseignement, d'un service de renseignement ?
Alors, la guerre électronique, qui est pour du renseignement, dépend du renseignement, mais après, il y a toute la partie de guerre électronique offensive qui, elle, n'est pas traitée aujourd'hui. Du moins, pas suffisamment.
Parce que justement, quand je pense aux États-Unis, tout le monde sait ce que fait la CIA ou la FBI ou l'armée de l'air ou en fait tous les éléments de la défense américaine. Mais si on demandait alors qui est responsable de la guerre électronique, les gens ne savent pas. Ils ne sauraient pas répondre.
Il y a un centre qui centralise les trois armées en
c'est
France.
C'est la NSA peut-être, aux États-Unis.
Aux États-Unis, c'est le. Oui, c'est le.
La NSA. Oui, c'est la NSA. Qui est aussi militaire.
Mais après, il y a aussi le renseignement militaire.
Ah oui.
Américain, il y a un peu des deux.
Et malgré ça, vous croyez franchement que la Russie prend de l'avance sur les États-Unis ?
Ils avaient de l'avance. Et pour l'instant, ils ne font que maintenir leur avance. Alors, si tout le monde investit, les Chinois et tout ça, il est possible que d'autres pays, peut-être une dizaine d'années, puissent rivaliser.
Alors, comment est-ce que vous voyez évoluer ce domaine ?
Pour l'instant, c'est pas facile à dire parce que pour l'instant, je vois une remontée en puissance. C'est-à-dire, pour l'instant, je vois pas des révolutions fondamentales dans la guerre électronique se produire. C'est-à-dire que les gens, certains pays essaient de réacquérir des compétences perdues et des moyens perdus. Pour l'instant, on en est là. Après, sur la réflexion. Maintenant, après, ça manque encore de réflexion. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire en guerre électronique ?
Vous croyez qu'on va voir la Chine arriver à la table aussi ?
Mais ils sont déjà à la table, mais...
Dans ce domaine.
Oui, ils sont déjà à la table dans ce domaine. Alors, de savoir quel est leur niveau aujourd'hui, je suis incapable de le dire réellement, parce que c'est pas... C'est quelque chose qui ne mettent pas forcément en avant. Il y a clairement l'influence russe derrière, donc...
Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ?
Maintenant, il y a le Japon qui a décidé de rejouer, donc qui a fait des investissements, qui est en train de se rééquiper. Les Américains ont décidé de rejouer. Après, il y a historiquement il y a des pays qui étaient... Bon, l'Ukraine a décidé de reprendre cette partie parce qu'ils en ont subi. Donc, il y a plusieurs pays qui regagnent en compétences. Israël a aussi gardé toujours une compétence en guerre électronique importante, de par sa position.
Intéressant. Olivier Dujardin, chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement, expert en guerre électronique et le traitement des signaux radars. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Merci.
Merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordremondial.com ou sputniknews.com.